Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous reprenons donc ensemble la suite de ce roman de Lampedusa, Le Guépard. Don Fabrice se rappela la conversation qu'il avait eue quelques mois plus tôt avec le père Pirone dans l'observatoire inondé de soleil. Ce qu'avait prédit le jésuite s'accomplissait, mais ce n'était pas une bonne tactique que de s'insinuer dans le nouveau mouvement, de le faire servir au moins en partie au profit de quelque individu de sa classe. L'agacement que Salina éprouvait en pensant à sa conversation imminente avec Don Calogero diminua. Mais les autres personnes de la maison, Don Ciccio, les autres, que sont-elles au fond ? Excellence, personne n'a moins vu que moi la femme de Don Calogero depuis des années. Elle sort seulement pour aller à la messe, la première, celle de 5 heures, quand il n'y a personne. À cette heure-là, il n'y a pas d'orgue. Une fois, j'ai sauté de mon lit tout exprès pour la voir. Donna Bastiana est entrée, suivie d'une femme de chambre. Moi, gêné par le confessionnal derrière lequel je m'étais caché, je voyais mal. Mais à la fin du service, la chaleur fut plus forte que la prudence de la pauvre femme. Elle écarta son voile noir. Parole d'honneur. Excellence, elle est belle comme le soleil. On ne peut pas donner tort à ce cloporte de Don Calogero s'il veut la garder cachée aux yeux des autres. Pourtant, les nouvelles finissent par flirter même des maisons des mieux surveillées. Les servantes bavardent. Il paraît que Donna Bastiana est une espèce d'animal. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle ne connaît pas l'heure. Et c'est à peine si elle parle. C'est une magnifique jument, voluptueuse et mal dégrossie. Elle n'est même pas capable d'aimer sa fille. Elle est seulement bonne pour le lit, un point, c'est tout. Don Ciccio, pupille des reines et courtisan des princes, tenait beaucoup à ses manières qui étaient fort simples, mais qu'il estimait parfaites. Et il souriait avec complaisance. Il avait découvert le moyen de prendre une petite revanche sur l'homme qui avait anéanti sa personnalité. « Du reste, continua-t-il, il ne peut en être autrement. Savez-vous, Excellence, savez-vous de qui Donna Bastiana est la fille ?» Se retournant, dressé sur la pointe des pieds, il montra dans le lointain un petit groupe de masures qui semblait glisser sur la pente d'une colline où un misérable clocher essayait à grand-peine de les clouer. Un village crucifié. C'est la fille d'un de vos métayers de Runzi, celui qui s'appelait Pepe Giunta. Il était si sale, si sauvage que tout le monde l'appelait Pepe Merda. Sauf le respect que je dois à votre excellence. » Satisfait, il enroulait autour de son doigt l'oreille de Teresina. 2 ans après la fugue de sa fille avec Don Calogero, on l'a trouvé mort sur le chemin de Rampinzeri avec 12 chevrotines dans la peau. Il a toujours de la chance, Don Calogero. L'homme commençait à devenir gênant et exigeant. Don Fabrice connaissait plusieurs de ces détails et il en avait déjà soupesé l'importance. Mais il ignorait le surnom du grand-père d'Angélique. Ceci entr'ouvrait une profonde perspective historique et faisait entrevoir des abîmes en comparaison desquels Don Calogero était rassurant comme une plate-bande. Il sentit vraiment la terre se dérober sous ses pieds. Comment diable Tancrède avalerait-il cette nouveauté ? Et lui-même ? Il se creusa la tête pour trouver quel lien de parenté pouvait exister entre le prince Salina, oncle du marié, et le grand-père de la mariée. Il n'en trouva aucun. Et il n'y en avait pas. Angélique était Angélique, un beau brin de fille, une vraie rose à qui le sobriquet de son grand-père avait seulement servi d'engrais. « Vous me parlez de tout, Don Ciccio, de mère sauvage et d'ascendance fécale, mais non de ce qui m'intéresse, de Mademoiselle Angélique. » Le secret des intentions matrimoniales de Tancrède, qui jusque-là était demeuré dans les limbes, se serait certainement divulgué si les circonstances ne l'avaient déguisé. Sans aucun doute, on avait remarqué les fréquentes visites du jeune homme chez Don Calogero. On avait remarqué ses sourires d'extase et ses mille petites attentions qui, courantes et insignifiantes en ville, devenaient aux yeux des vertueux habitants de Donna Fugata le symptôme de violents désirs. Le plus grand scandale fut certainement le premier. Les petits vieux qui se grillaient au soleil et les gamins qui jouaient dans la poussière avaient tout vu, tout compris et tout répété. Quant à la signification proxénétique et aphrodisiaque de cette fameuse dizaine de pêches, on avait consulté à ce sujet de très expertes mégères et des livres révélateurs d'arcanes amoureux, parmi lesquels l'Aristote des campagnes, Rutilio Bensicasa. Heureusement, un phénomène relativement fréquent chez nous s'était produit. Les malignités avait masqué la vérité. Tout le monde avait imaginé un pantin tiré par de grosses ficelles, un Tancrède libertin dont la lascivité s'était fixée sur Angélique. Il s'évertuait à la séduire, c'est tout. La simple pensée d'un mariage soigneusement médité entre un prince de Falconeri et la petite fille de Pepe Merda ne traversa pas une seconde l'imagination de ces paysans qui, par leur commérage, rendait à la féodalité l'hommage que le blasphémateur rend à Dieu. Le départ de Tancrède coupa court à ses fantaisies et l'on n'en parla plus. À ce point de vue, Touméo ne savait rien de plus que les autres. Il accueillit donc la question du prince avec l'air facétieux que prennent les hommes d'âge pour parler des friponneries de la jeunesse.
Oh, sur la demoiselle excellence, il n'y a rien à dire. Elle-même en dit assez. Ses yeux, sa peau, sa beauté magnifique sont explicites et sont compris par tout le monde. Je crois que Don Tancrède a compris lui aussi ce langage. Est-il trop hardi de le penser ? Il y a en elle toute la beauté de sa mère sans l'odeur de fumier du grand-père. Et puis elle est intelligente. Avez-vous vu comme ces quelques années à Florence ont suffi à la transformer ? C'est maintenant une vraie dame, continua Don Ciccio, insensible aux nuances, une dame accomplie. Quand elle est revenue du collège, elle m'a fait venir chez elle et elle m'a joué ma vieille mazurka. Elle jouait mal, mais c'était délicieux de la voir avec ses tresses noires, ses yeux, ses jambes, cette poitrine. Ouh, il s'agit bien de fumier. Ses draps doivent avoir le parfum du paradis.
Le prince tica. L'orgueil de classe est si fort, même quand il décline, que ses louanges orgiastiques à l'excitante beauté de sa future nièce l'offensèrent profondément. Comment Don Ciccio osait-il s'exprimer avec ce lyrisme lascif en parlant d'une future princesse de Falconeri ? Il est vrai que le pauvre homme ignorait le fin mot de l'histoire. Il fallait lui raconter cela. Du reste, dans 3 heures, la nouvelle deviendrait publique. Don Fabrice se décida immédiatement et adressa à tout méo un sourire guépardien mais amical. « Calmez-vous, cher Don Ciccio, calmez-vous. J'ai chez moi une lettre de mon neveu qui me charge de demander en son nom la main de Mademoiselle Angélique. Désormais, vous parlerez d'elle avec le respect qui vous est coutumier. Vous êtes le premier à connaître la nouvelle. Mais vous devez payer cet avantage. De retour au palais, vous serez enfermé à clé avec Thérésina dans l'armurerie. Vous aurez le temps de nettoyer et de graisser tous les fusils et vous ne serez remis en liberté qu'après la visite de Don Calogero. Jusque-là, je veux qu'aucun bruit ne transpire. » Surpris ainsi à l'improviste, laissant précaution, laissant snobisme de Don Ciccio s'écroulèrent d'un seul coup comme un groupe de quilles frappées en plein centre. Seul, un sentiment très ancien survécut au choc. Ça, Excellence, c'est une saleté. Un neveu à vous ne doit pas épouser la fille d'un de vos ennemis, d'un de ceux qui vous ont toujours tiré dans les jambes. Chercher à la séduire, comme je le croyais, c'était un acte de conquérant. Mais là, il se rend sans condition, c'est la fin des falconneries et c'est la fin des salinas. » Cela dit, il baissa la tête et désira ardemment que la terre s'ouvrît sous ses pieds. Le prince devenait écarlate. Ses oreilles et ses yeux même étaient couleur de sang. Les poings serrés, durs comme des massues, il fit un pas vers Don Ciccio. Mais en homme de science, il était après tout habitué à peser le pour et le contre. En outre, sous son aspect léonin, c'était un sceptique. Il en avait tant vu aujourd'hui. Le résultat du plébiscite, le surnom du grand-père, les chevrotines, et Tuméo avait raison. C'est le passé lui-même qui parlait par sa bouche. Cela n'empêchait pas qu'il fût stupide. Ce mariage n'était la fin de rien, c'était le début de tout. Il se plaçait dans la ligne des meilleures traditions. Les poings du prince se rouvrirent, la trace de ses doigts resta marquée sur ses paumes. « Rentrons, Don Ciccio. Vous ne pouvez comprendre certaines choses. D'accord, comme avant, n'est-ce pas ? » Et tandis qu'il redescendait vers la route, il aurait été difficile de dire lequel était Don Quichotte et lequel Sancho Panza.
Bella figlia, bell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, conde, donde, tosole, tu senti del mio cuore il frequente palpito.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et après ce moment musical habituel, nous revenons au roman de Lampedusa, Le Guépard. Et nous allons aborder le chapitre 4e. Novembre 1860. Le projet de mariage, rendant les entrevues de plus en plus fréquentes, Don Fabrice commença à éprouver pour les mérites de Cédara un mélange d'admiration et de curiosité. L'habitude fit qu'il négligea bientôt les joues mal rasées du maire, son accent plébéien, ses vêtements extravagants et son odeur persistante de sueur aigrie pour découvrir peu à peu la rare intelligence de l'homme. Quantité de problèmes qui semblaient insolubles au prince furent résolus en un tour de main par Don Calogero. Affranchi des mille entraves que l'honnêteté, la décence et la bonne éducation imposent à la plupart, il avançait dans la forêt de la vie avec la sûreté d'un éléphant qui, déracinant les arbres et piétinant les tanières, continue son chemin en ligne droite, indifférent aux griffures des épines comme aux plaintes de ses victimes. Les affaires de Don Fabrice étaient nombreuses et complexes, et il les connaissait lui-même fort mal, non par défaut de pénétration, mais par une sorte d'indifférence méprisante à l'égard des problèmes qu'il estimait infimes. Au fond, cette attitude provenait de son indolence naturelle et de la facilité avec laquelle il se tirait habituellement de situations délicates en vendant quelques centaines d'hectares sur les milliers qu'il possédait, tout doucement, presque sans s'en apercevoir, il exposa ses problèmes à Cédara. Les conseils que donnait Don Calogero après avoir écouté le prince et coordonné les divers éléments du compte-rendu étaient parfaitement opportuns et d'un effet immédiat. Mais on n'en put dire autant de leur résultat final. Conçu avec une efficacité cruelle, mais exécuté avec une craintive mollesse par le débonnaire Don Fabrice, ils valurent en quelques années à la maison Salina une renommée exécrable auprès de ses vassaux, renommée aussi peu méritée que possible, mais qui n'en détruisit pas moins le prestige de Don Fabrice à Donna Fugata et Querchetta. La ruine de son patrimoine ne se trouva d'ailleurs pas ralentie pour autant. Il serait injuste de dire que la fréquentation assidue de Don Fabrice n'eut aucune influence sur Cédara. Jusqu'alors, il n'avait rencontré les aristocrates qu'au cours de réunions d'affaires, c'est-à-dire pour des achats ou des ventes, ou à la suite d'invitations fort exceptionnelles et longuement méditées. Aucune de ces circonstances ne permet à cette très singulière classe sociale de se montrer sous son meilleur jour. De ces rencontres, il avait tiré la conclusion que l'aristocratie était constituée d'hommes moutons dont l'existence se justifiait seulement par la laine qu'ils abandonnaient à la tonte de ses ciseaux et par leur nom, rayonnant d'un inexplicable prestige qu'ils devraient un jour ou l'autre céder à sa fille. Pourtant, quand il connut Tancrède, le Tancrède de l'époque post-garibaldienne, il se trouva devant un exemplaire inattendu de jeune noble, aussi âpre que lui, capable de troquer très avantageusement ses sourires et ses titres contre les grâces et les richesses d'autrui, tout en revêtant des actions à la Cédara, d'une désinvolture et d'un charme que Cédara lui-même savait ne pas posséder, qu'il subissait sans s'en rendre compte et sans pouvoir le moins du monde en discerner les origines. Quand il connut un peu mieux Don Fabrice, il découvrit chez celui-ci la mollesse et la vulnérabilité caractéristiques de son noble mouton imaginaire. Mais il lui trouva de plus un attrait qui égalait bien celui du jeune Falconeri, encore qu'il fût de nature différente. Le prince y ajoutait un penchant à l'abstraction. Il cherchait à façonner sa vie avec ce qui lui venait de lui-même sans rien arracher aux autres. Cette puissance d'abstraction frappa très fortement Cédara, bien qu'il n'en saisît que l'aspect brut et fut incapable de la réduire en paroles, comme nous avons tenté de le faire ici. Il s'aperçut qu'une grande partie du charme de Salina provenait de ses bonnes manières. Il comprit à quel point un homme bien élevé peut être d'un commerce plaisant. Un homme bien élevé, c'est au fond un individu qui élimine toutes les manifestations désagréables de la condition humaine et qui exerce une sorte d'altruisme profitable. Formule dans laquelle l'efficacité de l'adjectif fait tolérer l'inutilité du substantif. Peu à peu, Don Calogero comprenait qu'un repas en commun n'est pas nécessairement une tempête de bruit de mâchoire et de taches de graisse, qu'une conversation peut très bien ne pas ressembler à une querelle de chiens, que céder le passage à une femme est signe de force, et non, comme il l'avait cru, de faiblesse, qu'on obtient bien davantage d'un interlocuteur en lui disant « je me suis fait mal comprendre » qu'en lui lançant « mais t'es bouché à l'aimerie ». Et que ces quelques précautions une fois prises, repas, causeries, femmes et interlocuteurs sont tout acquis à qui a su bien les traiter. Il serait hardi d'affirmer que Don Calogero profita immédiatement de tout ce qu'il avait appris. Il sut désormais se raser un peu mieux et s'effrayer un peu moins de la quantité de savon qui disparaissait dans la lessive. Ce fut à peu près tout. Mais à partir de ce moment commença pour lui et pour les siens cet affinement constant d'une classe qui, en trois générations, transforme d'innocent croquant en gentilhomme sans défense. La première visite d'Angélique, fiancée à la famille Salina, se déroula selon une mise en scène impeccable. L'attitude de la jeune fille fut si parfaite qu'elle semblait lui avoir été suggérée jusque dans ses moindres détails par Tancrède. Mais les lentes communications du temps rendaient cette éventualité impossible et l'on dut recourir à une hypothèse risquée, certes, même pour qui connaissait le mieux la prévoyance du jeune prince, mais pas absurde. Il avait sans doute fait ses suggestions avant même les fiançailles. Angélique arriva à 6 heures du soir, vêtue de blanc et de rose. Ses épaisses tresses noires étaient ombragées par un grand chapeau de paille encore estival, sur lequel des grappes de raisins artificiels et des épis dorés évoquaient discrètement les vignobles de Gibildolce et les greniers de Settesoli. Elle abandonna son père dès la salle d'entrée. Et dans le balancement de son ample jupe, gravit légèrement les nombreux degrés de l'escalier intérieur pour aller se jeter entre les bras de Don Fabrice et poser sur ses favoris 2 gros baisers qui lui furent rendus avec une affection sincère. Le prince s'attarda peut-être plus que de raison à respirer l'arôme de gardénia des belles joues adolescentes. Angélique rougit, recula d'un pas. « Je suis tellement, tellement heureuse !» Elle s'approcha de nouveau et, dressée sur la pointe de ses petits souliers, soupira à l'oreille du prince. « Tonton !» Trouvaille des plus réussies, comparable pour son efficacité scénique à la voiture d'enfant d'Eisenstein. Devant cette démonstration à la fois explicite et secrète, le cœur simple du prince s'attendrit et se trouva définitivement placé sous le joug de cette belle enfant. Pendant ce temps, Don Calogero montait les marches en disant à quel point sa femme se désolait de ne pas l'accompagner. Elle avait fait la veille au soir un faux pas dans la maison et s'était foulé le pied gauche assez douloureusement. Elle a le coup de pied comme une aubergine, prince. Don Fabrice, tout réjoui de la caresse verbale qu'il venait de recevoir et assuré, après sa conversation avec Tuméo, que sa courtoisie n'aurait pas de suite dangereuse, se paya le luxe de dire qu'il se rendait lui-même immédiatement chez Madame Sedara. La proposition ahurit Don Calogero, qui dut pour la repousser accabler sa pauvre femme d'un second malaise, une migraine cette fois. La malheureuse était contrainte de rester dans l'obscurité. En attendant, le prince donnait le bras à Angélique. On traversa dans la pénombre plusieurs salons vaguement éclairés par de petites lampes à huile qui permettaient à peine de trouver son chemin. Au fond d'une longue perspective resplendissait le salon de Léopold, où se tenait le reste de la famille. Cette procession dans l'obscurité déserte vers le centre lumineux de l'intimité domestique allait au rythme d'une initiation maçonnique. La famille se pressait sur le seuil. Devant la colère de son mari, qui les avait non pas repoussés, ce serait trop peu dire, mais carrément foudroyés et anéantis, la princesse avait renoncé à toutes ses réserves. Elle embrassa à plusieurs reprises sa future nièce et la serra si fort dans ses bras que la peau de la jeune fille fut marquée par le fameux collier de rubis, orgueil des Salina, que Maria Stella avait tenu à porter en signe de fête, bien qu'il fît encore jour. François-Paul, le fils de 16 ans, savoura le droit exceptionnel d'embrasser lui aussi Angélique sous le regard jaloux mais impuissant de son père. Concetta montra son affection d'une manière toute particulière. Sa joie était si intense que les larmes lui venaient aux yeux. Les autres sœurs se pressaient tout autour, d'autant plus bruyantes et joyeuses qu'elles étaient moins émues. Le père Pironet, qui saintement n'était pas insensible à la beauté des femmes, où il se complaisait à voir une preuve inégalable de la bonté divine, sentit fondre à la tiédeur de la grâce, avec un G minuscule, toutes ses oppositions et murmura « Veni sponsa de Libano ». Il dut lutter quelque peu pour refouler de sa mémoire d'autres versets plus chaleureux. Mademoiselle d'Ombreuil pleurait d'émotion, comme il convient aux gouvernantes, et serrait entre ses mains déçues les épaules florissantes de la jeune fille. Mais Bendico, pourtant si sociable d'habitude, se tenait sous une console, la gorge pleine de grondements. Il fallut que François-Paul, indigné, les lèvres encore frémissantes, le remît brutalement dans le droit chemin. Sur 24 des 48 bras du lampadaire se dressait une bougie allumée, et chacune de ces bougies, à la fois candide et ardente, pouvait figurer une vierge qui se consume d'amour. Les fleurs bicolores de Murano, à l'extrémité de leurs tiges de verre recourbées, se penchaient, afin de regarder, d'admirer celle qui entrait, de lui adresser un sourire irisé et fragile. Dans la grande cheminée, le feu scintillait, non pour réchauffer l'atmosphère encore tiède, mais en signe de jubilation. La lumière des flammes palpitait sur les dalles, arrachant des lueurs intermittentes aux dorures passées de l'ameublement. C'était vraiment là le foyer, le symbole de la maison. Les tisons figuraient l'éclat des désirs et la braise de continuelles ardeurs. Nous arrivons à la fin de cette lecture pour ce soir, que nous retrouverons demain dans la suite donc de ce roman de Lampedusa, Le Guépard. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.